Vous écoutez France Culture.
C'est l'heure du journal de la rédaction. Bonjour Jacqueline Fardel.
Bonjour à tous. Les sanctions américaines entrées en vigueur ce matin en Iran, dans un pays où la colère de la population ne cesse de grandir. C'est tout un régime qui pourrait être ébranlé, nous dira le spécialiste de l'économie iranienne, Fereydoud Kavan. L'amnistie surprise de Simone Gbagbo en Côte d'Ivoire. L'ex-dame de fer du régime va être libérée. 800 opposants graciés. Le président Alassane Ouattara veut favoriser la réconciliation nationale. Pourquoi cette amnistie maintenant, à 2 ans de l'élection présidentielle dans le pays? La réponse de Vincent Auge, grand reporter à Express. La Colombie accueille son nouveau président. Passation de pouvoir aujourd'hui entre Juan Manuel Santos et Iván Duque. Iván Duque, représentant de la droite dure. Quel défi l'attendent? L'analyse de Nadine Epstein. Nous irons en Algérie où des manifestations perturbent les festivals cet été. Polémique dans le pays. La correspondance de Leïla Baratou à Alger. Le discret Alexis Kohler a-t-il franchi la ligne jaune? Nouvelle révélation de Mediapart ce matin. Le site d'information apporte des preuves sur les mensonges numéro 2 de l'Elysée. Sur ses liens familiaux avec l'armateur MSC, mais pas seulement. Dans le journal, l'avocat de l'association Anticor qui a déposé plainte. Le déficit commercial de la France, il se creuse un peu en juin, en cause des dépenses énergétiques. Explication de Jean-Marc Chardon. La grande table avec vous, Romain Debecq de Lièvre, dans un quart d'heure.
Oui, en première partie, on va revenir sur les jeunes festivals de théâtre en région. Et en seconde partie, le portrait de l'écrivain Régis Geoffray. Et
rendez-vous à 12h45. L'Iran est donc commercialement coupé du monde depuis ce matin 6h. Le pays sous le coup des sanctions américaines. Le président Hassan Rouhani dénonce une guerre psychologique. Il écarte toute négociation sur un nouvel accord nucléaire réclamé par les États-Unis. Et ce matin, Donald Trump rive le clou. Quiconque faisant des affaires avec l'Iran ne fera pas d'affaires avec les États-Unis. Une première salve de sanctions qui vise d'abord l'industrie automobile ou encore les transactions de métaux précieux, les importations de tapis et de pistaches. De quoi renforcer encore la colère de la rue, la population qui manifeste régulièrement face à la crise économique, sociale et de plus en plus politique dans le pays. C'est tout un système qui est contesté par les manifestants depuis déjà le mois de décembre, bien avant les sanctions américaines. Et pour le spécialiste de l'économie iranienne, Fereydoud Kavan, c'est le système dans son entier qui est fragilisé, réformateur comme conservateur.
Cette distinction entre les conservateurs et les réformateurs appartient au passé. Il y a eu donc des réformes entreprises par l'ancien président Rafsanjani et son successeur après le président Khatami. Et enfin, il y a des réformes qui ont été lancées ou annoncées par le président actuel Rouhani. Donc, à l'heure actuelle, la population constate que rien ne change. Et la situation devient de plus en plus difficile. Donc, à l'heure actuelle, l'incompétence, la mauvaise gouvernance et la corruption incitent la population de plus en plus à considérer que la théocratie chiite est incapable de transformer le pays, de donner de l'emploi à la population. Et par conséquent, je pense que nous sommes entrés dans une nouvelle phase où, encore une fois, il n'y a plus de distinction entre les conservateurs et les réformateurs. C'est tout le régime qui est mis en cause.
La théocratie et son guide suprême critiqué dans la rue. Un dossier en une de France Bleu, de franceculture.fr. En Côte d'Ivoire, l'ancienne dame de fer, Simone Gbagbo, bientôt libre, amnestiée par le président ivoirien Alassane Ouattara, comme plusieurs figures de l'ancien régime. 800 personnes graciées en tout au nom de la réconciliation nationale. Le point faible du régime pointé dans un rapport des observateurs européens la semaine dernière. Simone Gbagbo avait été emprisonnée en 2015, condamnée à 20 ans de prison pour atteinte à la sûreté de l'État. Elle qui a connu les sommets du pouvoir, puis la chute avec son mari Laurent Gbagbo, toujours détenu à la Haye, jugé par la Cour pénale internationale pour crimes contre l'humanité. À 2 ans de la fin de son mandat, le président ivoirien veut donc favoriser la réconciliation nationale dans un pays longtemps divisé et un pays qui se prépare à élire un nouveau président en 2020. Alors pourquoi cette amnistie et maintenant, quel est l'intérêt du président Ouattara? L'analyse de Vincent Hugeux, grand reporter à l'Express.
Depuis le début, j'ai la conviction que, en dépit des demandes réitérées
de Fatou Bensouda, la procureure de la CPI de La Haye. Simone Gbagbo, elle, en dépit de son poids politique et du rôle qui fut le sien dans la crise post-électorale, ne serait jamais transférée à La Haye. Pourquoi ? Parce que Ouattara avait besoin de garder sous le coude une carte maîtresse qui, abattue au moment opportun, lui permettrait d'en tirer avantage sur l'échiquier politique ivoirien. Le paradoxe de cette histoire, c'est que Simone Gbagbo, qui exècre Alassane Ouattara et son entourage, elle le traîne dans la fange depuis des années, elle le surnomme par exemple le chef bandit, eh bien elle doit sa liberté à ce personnage qu'elle tient en bien piètre estime. Donc il y a chez Ouattara à l'évidence un calcul politique. Donc en gros, c'est du billard à trois bandes, il y a la volonté de marquer un effort vers cette réconciliation nationale introuvable à ce stade, et puis il y a aussi des calculs, puisque c'est une manière également d'entretenir le trouble au sein du Front populaire ivoirien, le principal parti d'opposition qui a été cofondé en 1982 par Laurent Gbagbo, qui lui est toujours à La Haye en ce moment, et par Simone, activiste extrêmement vigoureuse dès sa jeunesse. Eh bien, ce parti est aujourd'hui déchiré. Donc, on voit que au-delà du caractère spectaculaire, théâtral de cette annonce, il y a bien sûr des calculs électoraux.
Vincent Hugeux, joint par Valérie Crova, auteur notamment de Reines d'Afrique, portrait des épouses des chefs d'État africains, un livre paru en poche chez les éditions Tempus Perrin. Au Zimbabwe, 27 militants devant la justice aujourd'hui, arrêtés après les violences qui ont suivi les élections dans le pays le 30 juillet. L'opposition dénonce une répression généralisée pour empêcher la contestation des résultats de la présidentielle remportée par Emmerson Mnangagwa. En Colombie, les débuts du nouveau président s'annoncent difficiles. Iván Duque prend ses fonctions aujourd'hui, avocat, ex-sénateur. À 42 ans, il succède à la populaire Juan Manuel Santos. Le nouveau venu, représentant de la droite dure, arrive au pouvoir au cours de la période d'application des accords de paix avec les FARC. Les relations sont au plus bas avec le Venezuela voisin. Un mandat sur lequel devrait planer l'ombre d'Uribe, le dirigeant de son parti d'origine, son mentor, visé par une enquête. Bonjour Nadine Epstein.
Bonjour.
Les défis sont donc nombreux.
Le président sortant, Juan Manuel Santos, reconnaît que pendant ces 8 années passées à la tête de l'État, il n'a pas totalement atteint son objectif, celui de parvenir à une paix complète en Colombie, un pays où le conflit armé entre guérillas, paramilitaires, trafiquants de drogue et agents de l'État a fait 8 millions de victimes. Si les FARC sont devenus d'anciens guérilleros, une autre guérilla, l'ELN, n'a pas signé de cesser le feu et continue à enlever civils et militaires. Et sur ce dossier, le nouveau président, Iván Duque, n'entend pas poursuivre le chemin de la négociation. Fléau colombien qui reste une priorité, la drogue. Le pays reste le premier exportateur de cocaïne. 35 ans de lutte pour éradiquer la culture de la coca, une guerre perdue. Exploitation, consommation, commerce ont augmenté même depuis que les FARC soutiennent les plans de substitution. Mais pour le prix Nobel de la paix, le trafic de drogue n'est pas du seul ressort de la Colombie. Juan Manuel Santos estime urgent que les pays du continent américain définissent et mettent en place une nouvelle stratégie. Lutter contre les narcotrafiquants, le nouveau président Duque rejette la notion de délit amnistiable, s'opposant ainsi à certains points des accords de paix avec les FARC. Tout à l'heure, donc, la passation de pouvoir présidentiel. C'est aussi aujourd'hui le jour de l'indépendance de la Colombie. Les cérémonies se dérouleront place Bolivar, en présence à Bogota d'une foule populaire et des principaux dirigeants sud-américains, exception faite du vénézuélien Maduro.
Nadine Epstein, la Californie touchée par le plus grand incendie de son histoire, le Mendocino complexe qui gagne du terrain dans le nord de l'État le plus peuplé des États-Unis. Une dizaine de personnes ont été tuées depuis le début de l'été dans les feux en Californie. L'enquête... L'enquête sur le possible conflit d'intérêts visant le secrétaire général de l'Élysée, Alexis Kohler. Le site internet Mediapart apporte des preuves et pousse l'affaire un peu plus loin. Le proche d'Emmanuel Macron aurait dissimulé des liens familiaux avec l'armateur MSC, dont il a été directeur financier de la compagnie. MSC, principal client de la société STX France, qui possédait les chantiers navals de Saint-Nazaire et où l'on retrouve le numéro 2 de l'Élysée. Il a été administrateur du groupe. Dans cette affaire, l'association Anticor a déposé plainte. Le le 1er juin devant le parquet national financier pour prise illégale d'intérêts et trafic d'influence. Aujourd'hui, l'enquête va plus loin et se porte sur l'administration du port du Havre. Jean-Baptiste Souffron est l'avocat d'Anticor.
Ce qu'a découvert Mediapart, c'est que M. Collère n'était non seulement au conseil d'administration des chantiers de l'Atlantique, les chantiers de l'Atlantique ayant comme seul client la société MSC, mais également que M. Collère était aussi au conseil d'administration du port du Havre, le port du Havre ayant comme principal client également la société MSC. Et là, autant sur les chantiers de l'Atlantique, M. Collère s'est défendu en disant qu'il s'était déporté, qu'il avait été attentif à respecter la loi. Autant sur le port du Havre, il apparaît de façon continue de 2010 à 2012 qu'il a pris des décisions, qu'il a participé à des réunions, qu'il a eu des informations qui intéressaient directement les intérêts de la société MSC qui appartient à sa famille. Cette affaire, elle est particulièrement importante et signifiante, d'abord parce qu'il s'agit du plus haut fonctionnaire de l'État français, hein, on parle du numéro 2 de l'Élysée après M. Macron, et on parle de montants qui sont absolument colossaux. La garantie qui aurait été accordée par l'État français à la société MSC, c'est 1,5 milliard d'euros. Et ce qui est un petit peu inquiétant, c'est de se rendre compte qu'au fur et à mesure des révélations sur cette affaire, mais comme dans d'autres hypothèses similaires, hein, que ce soit avec l'affaire Pénico ou avec l'affaire Benalla, eh bien, on se rend compte au fur et à mesure des épisodes que finalement, la dissimulation a été complète du début à la fin et qu'on ne cesse de découvrir des tiroirs supplémentaires avec des problèmes supplémentaires, des infractions supplémentaires et des mensonges supplémentaires.
Jean-Baptiste Souffron, avocat d'Anticor, joint par Camille Magnard. L'Élysée, joint par nos services, n'a pas répondu pour l'instant. Le déficit commercial français se creuse en juin de 6 à 6,2 milliards d'euros, un plus haut depuis février 2017. Si les exportations réalisaient de bonnes performances dans le domaine industriel notamment, eh bien dans le même temps, il y a eu une très forte hausse des achats énergétiques. Bonjour Jean-Marc Chardon.
Bonjour Jacqueline Fardel.
L'amélioration tant attendue du commerce extérieur tarde à venir.
Et on aura beau saluer les bons chiffres quand on regarde les exportations dans l'aéronautique, des bons chiffres aussi dont la vente à l'étranger de médicaments et de vaccins, eh bien ça ne permet pas en effet de sortir de la spirale des déficits. La France a bien vendu plus d'avions qu'au printemps, 37 contre 22, beaucoup plus de satellites aussi pour 230 millions d'euros. Il n'empêche, elle s'est fait rattraper par la facture énergétique qui a vu son déficit frôler les 2,9 milliards. En conséquence de quoi? Du renchérissement des prix sur le marché pétrolier surtout. C'est pour beaucoup ce qui explique que le déficit se creuse de plus en plus. Il est deux fois plus important qu'il y a un an dans ce secteur où les approvisionnements s'amplifient principalement auprès de l'Asie et du Proche-Orient. Alors, plus cher le poste des importations, ce n'est pas forcément en soi une mauvaise nouvelle dans la mesure où c'est aussi la preuve que les industriels ont besoin d'acheter plus d'énergie pour faire tourner leurs usines. Mais le problème, c'est que la France ne réussit toujours pas à gagner des parts de marché dans le même temps. Si les exportations automobiles n'enregistrent qu'un léger regain, les échanges se contractent en effet dans le textile, la chaussure, les échanges agricoles et agroalimentaires. Alors pourquoi cette incapacité à sortir des déficits? Parce que la France, qui compte moins d'entreprises exportatrices que l'Allemagne et l'Italie, a toujours du mal à rattraper le retard qu'elle a pris au cours des années de désindustrialisation. Que les industries ne viennent à se mettre à investir que récemment. Or, c'est une condition majeure pour se moderniser. Mais cela, ça prend des années avant de donner des résultats.
Jean-Marc Chardon. La météo est encore une journée à tenir sous la chaleur. 70 départements encore en vigilance orange pour des risques d'orage ou pour la canicule. Météo France prévoit une situation très orageuse sur un grand quart nord-ouest, sur le massif central et jusqu'à la Bourgogne. La Champagne est concernée et l'est de la Lorraine également. Ce journal a été préparé avec Mathilde Laurent. Le prochain rendez-vous de l'information à 18h avec Sébastien Berriot. Et tout de suite à 12h45, place à la grande table avec Romain de Bec de Lièvre.